بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de reprendre le tafsir après ces vacances, l'interruption. Et donc, alhamdoulilah, avant les vacances, on avait complété le tafsir de Wailul al-Mutaffifin. Donc là où démarre, Inch'Allah, Suratul Infitar, Idha Sama'un Fatarat, avec pour objectif d'essayer de compléter l'Infitar avant le mois de Ramadan. Il nous reste à peu près deux vendredis ou trois, mais Inch'Allah, en fait, la plupart de ces sourates qui commencent par « Idha sama un shaqqat »,« Idha sama un fatarat »,« Wa sama idha til buruj », quand même « Wa sama idha til buruj », c'est pas exactement pareil, mais la plupart de ces sourates commencent à peu près par les mêmes termes. Ce sont, on va dire, l'annonce un peu apocalyptique de la fin du monde. C'est des versets qui expriment, qui expliquent comment est-ce que le dunya, comment est-ce que ce monde va être détruit par Allah Azza wa Jal, en expliquant la situation des cieux, de la terre et des mers. C'est-à-dire les trois éléments, il y en a deux qui sont reconnus scientifiquement, le ciel qui n'est pas vraiment, qui n'a pas encore eu la reconnaissance des scientifiques, mais qui, subhanallah, créature d'Allah Azza wa Jal, et Allah explique comment est-ce qu'il va détruire ces trois grandes créations à la fin des temps. Et vous vous rappelez, on avait vu également, avant Al-Mutaffifin, on avait vu également des sourates qui expliquaient que le ciel et la terre, ils obéiront totalement à Allah Azza wa Jal. Ils vont même changer leur nature pour obéir à Allah Azza wa Jal quand Allah leur ordonnera de se détruire, de se désamorcer, de s'éparpiller. Alors que les cieux, on avait vu que c'est une des créations les plus impressionnantes, les plus imposantes. La khalq al-samawa, la création des cieux et de la terre, c'est encore plus fort, encore plus impressionnant, plus important que la création des êtres humains. Et nous voyons la solidité de la terre, la solidité des cieux. Nous avons vu également dans différents tafsirs, nous avons vu les malaïkas, les anges qui peuplent les cieux. Comment est-ce qu'il y a des anges extraordinaires? On avait vu des descriptions des anges porteurs du trône d'Allah. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous ces grands malaïkas, ils vivent dans les cieux. Donc ça nous donne une idée de la grandeur des cieux qui abrite ces grands malaïkas, ces archanges, ces muqarrabin. Et tous ces anges seront, eux aussi vont, subhanallah, ils vont mourir le jour des comptes, le jour où Allah Azza wa Jal ordonnera à l'ange de souffler dans la corne. Et également la terre sera détruite, les cieux seront détruits et les mers. Donc on a une série de sourates à partir d'aujourd'hui et les sourates qui vont venir après qui donnent la même description chaotique et apocalyptique, on pourrait dire, description donc de la fin du monde. Si vous avez déjà vu, on n'a pas comparé ça avec les sourates, si vous avez déjà vu des films qui parlent de la fin du monde, on voit les océans qui envahissent les mers, on voit du déluge, on voit des tremblements de terre. On peut parfois voir des volcans entrer en éruption, c'est-à-dire les cataclysmes en général, ça se passe de cette façon dans les scénarios d'êtres humains. Mais la seule chose qu'ils oublient de mettre en scène, c'est le ciel qui explose, le ciel qui se fend, et dans d'autres versets, dans d'autres sourates, on verra le ciel qui devient rougeâtre. C'est parce que scientifiquement, la notion de ciel n'existe pas. Ils ne l'ont pas encore découvert, ils n'ont pas dépassé la lune, et Allah seul sait s'ils ont été sur la lune, ou alors ils ont d'excellents, Ibrahim peut nous dire ce qu'ils ont d'excellents moyens techniques pour nous faire comprendre, pour nous faire croire que des hommes ont été sur la lune. Allah seul le sait. Ils ont essayé d'aller jusqu'à Mars, mais pour l'instant ils se contenteront des chocolats, et avant d'arriver vers la planète rouge, il y aura pas mal de temps. Alors, l'être humain aussi petit qu'il est, il ose proclamer que le ciel ce n'est qu'un reflet de l'océan dans les airs, etc. Ça n'existe pas, alors que subhanallah, le créateur des cieux et de la terre nous donne des descriptions précises des cieux en ce moment le rôle des cieux, et à travers les hadiths, nous avons vu lors du voyage nocturne également que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte vers Allah azza wa jal, il passe de ciel en ciel, à chaque fois qu'il arrive à la limite d'un ciel, il y a un ange. Il y a un ange qui est gardien de ce ciel et qui, le terme n'est pas adapté, mais qui filtre les entrées. Il demande à l'ange Jibril qui est avec toi. Et là, l'ange Jibril alayhi salam dit que c'est Mohammed, le prophète d'Allah. Et là, il lui annonce là, il lui souhaite la bienvenue, la bonne nouvelle qu'il a été agréé par Allah, etc. Et donc, Jibril alayhi salam a besoin de l'accord des anges pour amener le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au trône d'Allah, jusqu'au septième ciel. Donc, chaque ciel est peuplé, et dans le voyage nocturne, on voit également, il y a des anbiya, des prophètes qui restent dans certains cieux, dans le premier ciel, qui le prophète a-t-il rencontré, dans le deuxième, troisième, ainsi de suite, jusqu'au septième ciel. Donc, nous voyons que le ciel est peuplé. Le ciel, ce n'est pas qu'une notion ou alors quelque chose d'abstrait, c'est un monde qui est peuplé et qui est beaucoup plus peuplé que le monde des êtres humains et des djinns ensemble. Je ne sais pas si c'était dans ce majlis qu'on avait cité, ou alors ailleurs certainement, mais on avait peut-être rappelé ici également, hadith qui parle de Gog et Magog, et qui explique que Allah Azza wa Jal, dans tout ce qu'il a créé, 9 dixièmes de la création, ce sont des anges. Et dans, je ne suis pas très fort en fraction, mais imaginez un fromage, je vous avais dit pas, 9 dixièmes, d'accord, c'est les malaïka. Et si vous prenez ces 9 dixièmes, c'est-à-dire 90% de ces 90%, ce sont des anges qui ont été créés uniquement pour faire le dhikrullah, le tasbih d'Allah, pour être en position de sijda, pour faire les louanges d'Allah. Déjà, ça nous donne une idée de la quantité de créatures qui passent l'intégralité de leur existence à faire l'adoration d'Allah. Donc on comprend clairement, c'est une parenthèse, qu'Allah n'a pas besoin de nos actes d'adoration. Allah n'a pas besoin de mon sujda, Allah n'a pas besoin de mon ruku', ma génuflexion, Allah n'a pas besoin de mon subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Allah n'a besoin de personne. Allah il est as-samad. Il n'a besoin de personne. Mais Allah aime voir ses serviteurs faire son adoration. Si le monde entier se, subhanallah, qu'Allah nous protège, se rebellait, et il décidait d'arrêter le ibadah, de faire les péchés, ça ne diminuerait en rien le pouvoir d'Allah. Tout comme si l'humanité tout entière, mashallah, ils obtenaient la guidée, la hidayah, ils se mettaient à faire de bonnes actions, et ils imploraient, demandaient à Allah tout ce qu'ils veulent, et qu'Allah leur accordait tout ce qu'ils demandaient, ça ne diminuerait en rien la puissance d'Allah, la richesse d'Allah, tout comme quelqu'un qui met une aiguille dans la mer et qui retire cette aiguille, quelle quantité d'eau cette personne a-t-elle retirée de la mer? Ça c'est la relation entre Allah Azza wa Jal et ses makhlouqat et ses créatures. Allah As-Samad n'a besoin d'aucune de ses créatures. Mais ça nous donne une idée comment subhanallah, la création d'Allah, elle est vaste, étendue, et comment surtout elle est inconnue. Nous croyons tout maîtriser. Et les scientifiques avouent qu'il y a peut-être 70 à 80% des espèces, des insectes, des volatiles, etc., etc., dont ils ne connaissent pas encore l'existence. Et pas forcément aller dans les îles Galapagos ou des endroits hyper éloignés. Il y a des fois où à deux pas de nous, il y a des créatures, ça peut être des poissons, des créatures sous-marines, ou alors des insectes qu'on ne connaît même pas l'existence. Vous vous rappelez qu'il y avait l'éruption volcanique il y a 3 ans ou 4 ans, que lorsque la lave était entrée dans la mer et qu'il y a des poissons étranges qui sont remontés à la surface, c'est-à-dire la lave, elle n'est pas partie à 10 km de l'île de la Réunion, c'était même pas à 50 mètres, si je ne m'abuse, d'accord, moins de 50 mètres, mais moins de 50 mètres au fond. Et est-ce qu'à moins de 50 mètres, est-ce que c'est aussi profond que ça? Je pense pas. Ben, il y a des poissons, etc., que les scientifiques ont vu. Ils se disent que première fois, ils voient de tels poissons dans le monde. Ils n'ont jamais vu aucun scientifique. Bref, fait comprendre que, subhanallah, comment est-ce que la science de l'être humain est limitée? On connaît quasiment rien de la création d'Allah. Et que dire maintenant du ciel? Et pour revenir à l'histoire du ciel et à la population des cieux, quand nous voyons le nombre d'anges, 90% des 90% de la création, ils ont été créés uniquement pour faire les tasbihat, les louanges d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, on peut se poser la question, dans une deuxième parenthèse, mais pourquoi est-ce qu'Allah, il attend du croyant qu'il fasse une adoration? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah a créé les êtres humains et les djinns pour faire son adoration. En termes enfin là on parle de Ghaib, mais en termes quantitatifs, Allah a plus de makhlouqat qui font déjà son adoration. Et quand on compare les portions, les fractions, on voit que donc les êtres humains et les djinns, ça représente un dixième de la création. Mais pourquoi est-ce qu'Allah a besoin de créer ces un dixième pour faire son ibadah alors qu'il a neuf dixièmes qui le font déjà? Parce que cette portion, cette fraction de un dixième, elle a eu le taklif, elle a le choix entre le bien et le mal. Allah leur a envoyé la révélation, Allah leur a prescrit des actes d'adoration, la sharia, et Allah a interdit certaines choses, a fixé des limites. Et ces créatures ont la possibilité de désobéir à Allah ou de l'obéir. Et c'est ce qu'on appelle l'épreuve. C'est dans cette situation où l'être humain est éprouvé par rapport à ses pulsions, ses shahawat, ses désirs, et qu'il a envie de faire le péché, qu'il a envie de regarder cette jolie femme qui traverse, il a envie de manger ce repas mais qui n'est pas halal, il a envie de signer ce contrat avec la banque pour pouvoir s'acheter telle chose mais c'est pas autorisé, il aimerait bien mettre ses écouteurs comme ses amis, écouter telle musique, etc. Il aimerait bien aller en boîte le samedi soir, il aimerait, mais il sait qu'au-dessus de lui, il y a Allah Azza wa Jal qui est son créateur et il revient vers lui. Ça, c'est l'action la plus aimée par Allah. De voir une de ses créatures faire preuve de sabr. C'est ce qu'on appelle al-sabr anil ma'asiyah. On voulait développer un peu ça aujourd'hui, le khutbah, mais il n'y avait pas assez de temps. Faire preuve de patience face aux péchés, aux tentations. Et résister et, subhanallah, prouver que on est capable de se dépasser pour Allah par amour et par crainte d'Allah. C'est pour ça que les malaïkas, ils étaient étonnés. Pourquoi est-ce qu'Allah a créé cette race? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Pourquoi, en ce sens, oh Allah, tu vas créer une race qui va semer la discorde sur ce dunya, sur cette terre, et qui va faire couler le sang avec des meurtres et des tueries, des guerres? C'est exactement ce qui est arrivé. Mais Allah Azza wa Jal savait exactement pourquoi il les crée. Et c'est pour ça qu'Allah aime lorsqu'un pécheur revient vers lui. Ce hadith interpelle. Il y a un hadith qui est connu, on a déjà cité dans ces assemblées, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, d'un exemple de cette personne qui est dans le désert, vous connaissez le hadith, la personne qui est dans le désert sur sa monture, et tout d'un coup il perd le contrôle et sa monture s'enfuit, son chameau s'enfuit, donc il n'a plus de monture et le chameau s'enfuit avec ses provisions, avec l'eau. Il est en plein désert. Ça veut dire qu'il va mourir de faim, de soif, de fatigue. Il y a une des raisons qui va précéder l'autre, mais cette personne va mourir, c'est clair. Et que la personne s'abrite sous un arbre, en ce sens, et que quelques instants plus tard, la personne voit sa monture revenir. Et comment il est heureux, subhanallah, en retrouvant sa monture qui est synonyme de vie, retrouve sa monture à boire et à manger, et là il remercie Allah. Et il se trompe, il dit « Oh Allah, je te remercie, tu es mon serviteur, je suis ton créateur. » Il se trompe. Pour ça, il me dit que la personne se trompe tellement, la personne est euphorique, joyeuse. Elle dit « Ben, vous voyez comment cet homme est content de retrouver sa monture ?» Ben, Allah est encore plus satisfait, plus content lorsqu'un musulman, un croyant qui s'était éloigné de lui, un pécheur, revient vers lui. Alors que dans les cieux, ces anges-là, « La ya'asoun Allah ama » Amarahum. Jamais ils ne désobéissent à Allah. Jamais dans l'existence du monde des malaïkas, un ange a désobéi à Allah. Abadan. Vous vous rappelez du hadith qu'Allah a créé un ange qui, depuis que Allah s'est établi sur le trône, hadith, on l'a souvent cité, répété, mais c'est pour que ta'zim Allah, la grandeur d'Allah, entre dans nos cœurs. Allah a créé un ange qui, depuis que Allah s'est établi sur le trône jusqu'au Qiyam, cet ange reste en position de sujda, prosternation. Et lorsque l'ange soufflera dans la trompe Israfil, cet ange se relèvera et dira « Oh Allah, subhanaka ma abidina ka haqqa ibadatik. Oh Allah, toute pureté, louange, te revienne. Je ne t'ai pas adoré, nous ne t'avons pas adoré comme tu le méritais. » Ça c'est ibada des malaïka des anges, sans interruption. Alors que nous on vacille, un jour temps chaud, un jour temps froid. Un jour, on vient, tout cela, on est présent, il y a des joies où on est absent, ou alors il y a un manquement, il y a des erreurs, il y a des péchés. Allah musta'an. Dans le mois de Ramadan, tout le monde, alhamdulillah, est présent à la masjid, le regard, khalas, on le contrôle, c'est sous contrôle, on n'écoute rien de mauvais, on fait attention à tout ce qu'on dit, pas de ribat, et on a l'impression qu'on est les meilleurs des gens. Mais après le Ramadan, on vacille, on perd du terrain, on fait des péchés, mais tout ça fait de nous des êtres humains. Lorsque Hanzala était en compagnie du Prophète sallam et lorsqu'il est retourné chez lui, il ne faut pas que quelqu'un nous rappelle qu'est-ce qu'on est en train de dire pour ne pas qu'on perde le fil. Lorsque Hanzala, il retourne près de sa famille, sa femme et ses enfants, il n'est pas parti faire des péchés, hein, il retourne auprès de madame et ses enfants, comme nous, comme n'importe quelle personne de cette assemblée qui a madame et ses enfants, des jeunes hommes, inchallah, qu'Allah leur accorde, ceux qui ne sont pas mariés. Et donc il retourne auprès de sa femme, ses enfants, et il retrouve sa vie de père, de mari, d'époux, tout à fait normal. Et à ce moment-là, il est pris d'une angoisse. Il est pris d'une angoisse. Il stresse. Pourquoi il stresse? Le Dow Jones, le CAC 40, c'est le coût du pétrole, c'est le gazole qui augmente, le gaz, là, wallah. C'est le STL en retard, non, il a supprimé, pardon. Non, du tout, c'est pas tout ça. Il stresse, il angoisse, il a peur, parce qu'il sent que quand il était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa foi, son iman était au top. Et lorsqu'il retourne auprès de femmes et enfants, il sent qu'il y a une diminution. Et il pense qu'il est un hypocrite. Allahu Akbar. Parce qu'il était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ressenti les plaisirs, la lumière du iman. Et là, pour lui, le fait de ne plus ressentir la même chose auprès de sa femme et ses enfants, il a l'impression qu'il est devenu hypocrite. Donc il retourne voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en chemin il voit une autre personne, j'ai plus les noms de sahaba en tête, qui dit que tu vas, où est-ce que tu vas, il raconte l'histoire, ses sentiments, il dit que moi c'est pareil. Donc je suis aussi angoissé que toi, et on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que sachez que si vous étiez toujours au même degré de foi, de iman, si votre foi atteignait toujours le plus haut degré, les malaïkas seraient venus vous faire mulaqat. Mais le prophète fait comprendre que nous restons des insans, nous restons des êtres humains. Et c'est le ibadah, c'est l'acte d'adoration de ces êtres humains, c'est l'acte d'adoration de ces êtres humains qui est accepté, qui est aimé par Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, le cheikh est arrivé. On cherche l'un des sahaba. J'avais pensé si Shouaib était là, nous aurait dit alhamdulillah. Il est venu quelques secondes après, mashallah. Et donc comprenons maintenant cet homme qui retrouve sa monture dans le désert, et que lorsqu'il retourne auprès d'Allah, il demande tawba, Allah est content de le rencontrer, de son retour vers lui, tout comme lui, il était content de retrouver sa monture. Alors que dans les cieux, il y a les anges qui, comme on vient de dire, cet ange qui n'a jamais désobéi à Allah, qui reste dans le sijda jusqu'au qiyam. Mais vous voyez le contraste, vous voyez que ce sont là deux situations complètement opposées, mais Allah est satisfait de cet homme qui revient vers lui après des péchés. Vous voyez également les hadiths qui parlent du mois de Ramadan, les hadiths qui parlent du hajj, que lorsque quelqu'un demande le dua, istighfar pendant wukuf Arafat, hein, hadith qui dit que même si cette personne avait autant de péchés que les grains de sable dans le désert, ou alors l'écume des mers, ou les gouttes de pluie, Allah Azza wa Jal pardonne l'intégralité de ses péchés. Et Allah est content de voir ce serviteur retourner vers lui. Et dans le hadith Qudsi qu'on a vu pour le khutbah, Afidou, maintenant allez-y, partez, hein, je vous ai accordé mon pardon. Donc nous voyons que malgré l'étendue de la création d'Allah, la population extrêmement importante des anges et la perfection de cette créature, de ces créations, de ce monde, de ce alam, le monde des anges, Allah aime l'être humain. Allah aime l'homme pieux, qui fait preuve d'istiqama, de fermeté dans sa foi, mais Allah aime également le croyant qui fait des erreurs, mais qui retourne vers lui. À un tel point que le prophète sallam avait dit que si personne ne faisait plus de péché, Allah aurait créé un peuple qui fait des péchés et qui demande tauba. Tellement Allah aime la personne qui retourne vers lui. Donc, tout ça pour nous rappeler l'existence des cieux. Et que tout ce qu'on a pu voir comme mise en scène hollywoodien ou autre chose sur la fin des mondes, la fin du monde, c'est s'avancer de dire la fin des mondes, est-ce qu'il y a plusieurs mondes, Allahu a'lam, la fin du monde, on va se limiter à notre monde, à nous. Ces scénarios-là, ils approchent un peu de la vérité par rapport aux mers, par rapport à la terre, etc. Mais ils ont oublié quelque chose d'essentiel, c'est le ciel. Parce qu'ils n'ont pas conscience de l'existence du ciel. Et dans le premier verset qu'on a cité dans Surat al-Infitar, « Idha as-sama'u infatarat » Le premier signe, la première chose qui est citée, c'est certes par rapport au fait que le ciel, c'est ce qui est le plus haut, mais également la rupture, l'éclatement du ciel, c'est ce qui est le plus impressionnant. Vous avez déjà vu une nuit d'orage quand il y a des éclairs et qu'il n'y a pas de nuages? Quand il y a la foudre qui s'abat, c'est comme si que le ciel se fend en deux. C'est impressionnant. Hein, ça fait peur. C'est pas comme les Gaulois, on a peur que le ciel tombe sur la tête, non? Mais c'est quelque chose d'impressionnant. Maintenant, imaginez, Inch'Allah, on ne verra pas ça. Hein, ceux qui ont la foi ne verront pas la fin du monde, Inch'Allah. Maintenant, imaginez voir le ciel éclater. Et dans ce verset, on parle que le ciel se rompra. La rupture du ciel. Ajib, ça. Là, on ne parle plus de faits scientifiques, ça même pas comme l'existence du ciel. Mais pour la fin du monde, ça commencera, la première chose qui sera visible, qui a été citée dans l'Al-Fitar, c'est le ciel qui va se fendre. Et on verra par la suite, après le mois de Ramadan, Inch'Allah, nous donne longue vie, Inch'Allah, on continuera avec les autres versets, les autres sourates qui commencent par Idas-Sama. Dans d'autres versets, on parle du ciel qui va devenir rouge, de couleur rose-rouge. Ça, je crois, de Sourate Ar-Rahman, ça. Et dans d'autres versets, là on parle un peu plus de l'au-delà, le ciel va, ça c'est des hadiths si je ne me trompe pas, qui décrivent le ciel qui va se fendre et ce sera comme du coton éparpillé. Comme des petits morceaux de coton éparpillés. Ça c'est la qudrat d'Allah sur toute sa création, malgré que le ciel c'est ce qu'il y a de plus solide, de plus ferme, qui abrite la plus grande population de créatures d'Allah, 9/10 de la population, mais lorsqu'Allah ordonne à l'intégralité de la création de se désintégrer, la totalité se désintègre uniquement par ordre d'Allah. Tout comme Allah crée comme il le veut, avec kun fayakun, il est ordonne de se détruire en une fraction de seconde. Idha as-sama'u unfatarat, quand le ciel se rompra, wa idha al-kawakib intatharat, on cite d'abord les quatre versets qui décrivent la situation apocalyptique de la fin du monde. Idha as-sama'u unfatarat, que le ciel se rompra, wa idha al-kawakib intatharat, et que les étoiles se disperseront, wa idha al-biharu fujirat, et que les mers confondront leurs eaux, les eaux. Et que les tombeaux seront bouleversés. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Toute âme saura alors. Et le mot alors est important. À ce moment-là, toute âme, c'est-à-dire chaque créature, chaque être humain, saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Et ça doit nous interpeller. Avant de passer au tafsir, juste en lisant la traduction, ça doit nous interpeller personnellement. Que quand il est trop tard, quand la fin du monde a lieu, c'est là que la personne se rend réellement compte de ce qu'elle a amené dans son livret de compte. De ce qu'elle a amené comme provision, on pourrait dire, auprès d'Allah pour le jugement. Et c'est là également que la personne va se rendre compte de ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Et qui d'entre nous, qui parmi nous, n'a pas déjà fait l'intention de faire une bonne action ou d'arrêter un péché, mais lui dit que on verra ça après. C'est pas la priorité. D'abord, j'essaie de régler ce problème. D'abord, je finis cette situation. Je termine avec ce problème de le travail, avec la famille. Et après, on verra le perfectionnement de ma foi. Après, je vais voir comment faire en sorte que mes enfants viennent à la masjid. Comment faire en sorte que ma fille, elle se couvre bien quand elle sort. Mais d'abord, j'ai trop de problèmes à régler. J'ai tel problème de santé, j'ai des problèmes de papier, problème des impôts, j'ai telle chose. Après, on va voir ça. Après, il y a Malik Al-Mod qui vient, qui prend ton âme. Et le jour des comptes, c'est là que la personne se rend compte. Ma qaddamat, qu'est-ce que j'ai pu faire, mais malheureusement ma wa akharat, mais malheureusement également ce qu'elle a remis à plus tard. Et quand le qiyama a lieu, il n'y a plus rien qui est accepté par Allah. Tout comme le tawbah n'est plus accepté, quand le soleil se lève de l'autre côté, c'est la fin des temps, c'est la fin du monde. Tout comme le tawbah n'est plus accepté quand on est dans le rarara, dans l'agonie, quand le qiyama a lieu, quand ces signes ont lieu, les comptes ne sont plus crédités. Les comptes, les hisab ne sont plus crédités. Autant une personne peut encore bénéficier de bonnes actions après sa mort par le biais des sadaqa jariya, ce qu'on appelle ici les waqaf, hein, d'accord ? Quand quelqu'un fait une bonne action pour son père qui est décédé ou utilise l'argent de la personne pour donner en aumône, construire une hôpital, etc. Ça on sait c'est quoi ? Ça peut encore profiter. Ou alors un enfant pieux, J'allais dire tout simplement, Allahu Akbar, c'est le plus grand ni'ma. J'allais dire tout simplement, en comparaison avec la construction d'un hôpital, la construction d'une mosquée, d'un pays pauvre ou d'un puits, un enfant pieux, on va dire que c'est encore plus compliqué que d'avoir tout ça. Ça c'est tawfiq min Allah, ensuite l'effort de tarbiya et ensuite beaucoup de dua pour qu'il soit protégé. Bref, c'est-à-dire qu'un enfant pieux également qui fait de bonnes actions, ça sera profitable pour moi après ma mort. Un enfant qui sera hafid al-Qur'an ou qui propage la religion, qui reste dans le droit chemin, qui deviendra un modèle pour l'humanité, ce sera un enfant qui m'apportera hasanat même après ma mort. Mais lorsque le qiyama a lieu, plus personne ne peut avoir un compte crédité. Il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Donc ces quatre signes, on revient légèrement, il a sama un fatarat, quand le ciel se rompra. In fatarat ay in shaqqat. Wa idal kawakibun tatharat, lorsque donc les étoiles se disperseront, et en commentaire, nous fassent disent que toutes les étoiles, an-nujum sariruha wa kabiruha, les petites étoiles comme les grandes étoiles, ils vont s'éparpiller, être détruits par l'ordre d'Allah, wa tatasaqat li an al-'alam intaha. Il dit que les étoiles et ces astres, on peut les appeler étoiles ou les astres, ils vont même tomber. En commentaire, dit qu'ils vont se disperser et tomber. Ça, c'est des choses qui sont pas imaginables sur le plan scientifique. Une étoile qui tombe, c'est pas une étoile filante, aucun rapport. C'est des étoiles dont le but de la création s'arrête. Tout comme le but de la création du ciel, des cieux et de la terre s'arrête, et quand le maqsad de leur création est terminé, alors ça s'arrête par ordre d'Allah. Même si ces étoiles-là, ils existent depuis des millions d'années, ils brillent millions, parfois peut-être plus, milliards d'années, mais lorsque leur rôle est terminé, lorsqu'Allah, parce que pour chaque créature, il y a un décret, ajal. Pour un être humain, ça peut être 90 ans, pour une étoile, ça peut être 90 millions, 100 millions d'années, mais quand Allah a décrété qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de création, il restera uniquement Allah. L'imanil mulkul l'yawm. Lillahi al-wahid al-qahar. À un moment donné, il n'y aura que Allah. Entre les deux souffles dans la trompe, ce sera exactement comme au début de la création. Lorsqu'Allah était établi Mustawa al-Arsh, il n'y avait personne. Même pas les anges qui portent le trône. Parce qu'Allah n'a pas besoin d'anges qui portent le trône. Mais Allah les a créés pour un but. Mais Allah n'a besoin de personne. Et donc, quand Israfil soufflera, selon l'opinion de la majorité de ulama, cet ange s'appelle Israfil, lorsque Israfil soufflera dans la trompe une première fois, et jusqu'à ce que ce sera une deuxième fois, il y aura un moment donné où il n'y aura plus de création du tout. Aucune créature, il n'y aura que Allah. Et ensuite, les créatures vont revenir à la vie l'une après l'autre. Hein, ça, c'est une autre histoire. Le marchand de la résurrection, comment elle aura lieu. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, et que les mers confondront, comme on a dit, leurs eaux, أي فَجَّرَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَمَلَأَتِ الْأَرْضِ, hein, les mers vont se mélanger, les océans, hein, comme on a vu un peu les images du tsunami, mais le tsunami c'est quoi? C'est, je ne sais pas moi, un kilomètre de mer peut-être qui vient sur la terre. Regardez le nombre de morts qu'il y a eu, je ne sais pas combien, plus de 6000 morts, je ne sais pas plus. Peut-être un kilomètre de mer qui est venu sur les terres, mais là c'est toutes les mers qui vont se confondre. Dans Death of Seals, Ibn Kathir qui dit, les mers, l'eau douce, l'eau salée, tout ça va se mélanger, alors que normalement, ces deux catégories d'eau ne se mélangent pas, comme le verset également de Sourate Ar-Rahman. Mais là, ça va se mélanger, et dans d'autres commentaires, si on parle un peu des Al-Bihar, des mers dans les différents surats, différents ayats de la fin des temps, on parle des mers dans d'autres versets, dans d'autres tafsirs ou dans d'autres hadiths, on parle des mers qui sont en ébullition. La mer qui va atteindre, qu'on parle d'ébullition, veut dire que sera bouillant, chaud, la mer sera en ébullition, les mers vont se croiser, vont inonder la terre jusqu'à ce que les mers vont s'assécher. Donc on a trois descriptions des mers à travers différents versets, différents hadiths, athar. Un, les mers vont envahir la terre. Deux, les mers vont se rejoindre. Vous savez qu'il y a plus de mers que de terre. Il y a plus d'océans que d'espace sec terrestre. Donc les mers vont se rejoindre, vont se confondre, inonder. L'autre description qu'on a, c'est que les mers vont être en état d'ébullition. Et l'autre description qu'on a dans Data Physique, c'est que les mers vont complètement s'assécher. Donc ça, c'est trois descriptifs déjà. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Là, on passe à une étape, on va dire, plus en rapport avec l'au-delà, ay akhraja ma fiha min al-amwat, que la terre va s'ouvrir pour laisser ressortir les défunts. Dans quel but? C'est pas juste un phénomène naturel, parce que la terre est devenue ramollie, donc tout ce qu'il y a dedans ressort. Non. Hatta qamu lillahi azza wa jal. Tout ce qui a été enterré va ressortir pour que toutes ces créatures qui sont mortes, décédées et enterrées reviennent en vie et reviennent auprès d'Allah pour être debout. Hatta qamu pour le qiyam, pour être debout devant Allah azza wa jal, pour rendre les comptes. Donc, quatre descriptifs concernant les cieux, les étoiles, mer et les tombeaux. Le commentateur, Mufassil, dit « فَهَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَ إِذَا حَصَلَتْ » Lorsque ces quatre choses auront lieu, à ce moment-là, comme on l'a dit à la traduction, à ce moment, « عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ » À ce moment, toute âme saura alors ce qu'elle accomplit et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Et en commentaire, il dit que pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme « عَلِمَتْ نَفْس » Un nafs, c'est une personne. Un individu. Il dit que quand on parle de nafs, kullu nafs, c'est tout le monde, que ce soit croyant ou non croyant. Chaque créature va réaliser que à ce moment-là, c'est le grand retour auprès d'Allah. C'est le grand moment que chaque créature doit vivre, c'est le retour auprès d'Allah. Le retour auprès d'Allah pour le hisab, pour les comptes. Et à ce moment-là, il y aura une prise de conscience générale. Même celui qui était athée, qui n'a jamais cru en Allah, en Dieu, en rien du tout, à ce moment-là, il y a une prise de conscience, la personne voit et réalise que j'ai été créé pour ça. Et on continue donc, alimat nafsuma qaddamat wa akharat, parce que à ce moment, qu'est-ce qui se passe? À ce moment, et là ça rejoint d'autres tafsirs, le Mufassir explique que à ce moment, l'être humain va comprendre et l'être humain va recevoir son livret de compte. Et là, on va pas trop entrer dans les détails parce qu'on avait bien expliqué ça dans Al-Mutaffifin. Fa kullu insanin alzam al oui, mais là c'est pas le verset, il le cite en commentaire. Kullu insan alzamahu Allah ta'irahu fi 'unuqi. Hein, chaque personne a eu, hein, il est avec lui son livret de compte, et le jour de Qiyamah, le jour des Hisab, la personne va retrouver son livret de compte, comme on l'a vu dans le Mutaffifin, soit de la main droite, soit de la main gauche, d'accord, mais en tout cas, Manchoura, ouvert, et que la personne pourra lire elle-même sa vie, je veux dire son Hisab, la personne pourra lire toute sa vie, parce que l'intégralité de la vie est inscrite dans le livret de compte. Et là, Allah Azza wa Jalla va donner à cette personne, Iqra kitabak, le verset connu, Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka Hasiba. Maintenant, lis ton livre, c'est toi qui es ton propre juge. Afin que personne ne pense qu'Allah a été injuste envers lui, na'oud billah, que la personne verra, il ouvrira son livret de compte, la personne va lire qu'est-ce qu'il a fait en 1975, en 80, en 92, en 2000, en 2030, en 2040. Parce que ce livre, le hisab, ça c'est quelque chose de parfait. Ça c'est quelque chose qui est géré par Allah. Allah a confié cette tâche aux malaïka, aux anges, mais les anges écrivent dans le livret de compte en fonction des directives qu'ils ont eues de la part d'Allah. Et les directives qu'Allah a données aux anges pour l'inscription des actions bonnes comme mauvaises, ces directives-là, alhamdulillah, vont toutes dans le sens et à l'avantage du mu'min. À l'avantage du croyant. De quelle façon? Et là, c'est un des commentaires qui vient un petit peu plus loin, mais on l'aborde maintenant. Quand un être humain, vous connaissez le masla, accomplit une bonne action, a l'intention de faire une bonne action, Allah ordonne aux anges d'inscrire la bonne action dans le livret de compte. Et si la personne accomplit la bonne action, Allah ordonne aux anges d'inscrire au minimum 10 fois. Et ça peut être beaucoup plus en fonction de la sincérité, en fonction du contexte, de la difficulté que la personne a éprouvé donc pour accomplir la bonne action. Maintenant, quand une personne a l'intention d'accomplir un péché, tant que ça reste l'intention, les anges n'ont pas le droit d'inscrire le péché. Maintenant, si la personne l'accomplit, Allah ordonne aux anges de l'inscrire une seule fois. Mais là également, Allah demande aux anges, ils ont eu cette directive, hein, ils savent exactement de quelle façon ils doivent travailler, et ça, il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de réforme, c'est une seule façon qu'il procède pour toutes les créatures d'Allah, tous les mu'mines, depuis, subhanallah, Allah leur a ordonné cette chose. C'est que lorsque la personne accomplit un péché, Allah ordonne aux anges de ne pas l'inscrire immédiatement, mais d'attendre. Peut-être que la personne va demander taouba. Vous voyez comment, subhanallah, l'inscription dans les livrets de compte sont à l'avantage du croyant. On ne parle pas de justice, d'équité, on parle davantage, subhanallah, impressionnant pour le mu'min. Et si la personne, entre-temps, demande tawbah, les anges n'inscrivent pas le péché dans le livret d'action. Mais s'il ne demande pas tawbah, le péché est inscrit. Et c'est lorsque le péché est inscrit, mes chers frères, que les problèmes commencent. Parce que si le péché est inscrit et que par la suite il a demandé tawbah, alhamdulillah, ou alors qu'il a fait les actions comme l'accomplissement de ces 5 salats, comme le hadith le prouve, la personne qui accomplit régulièrement ces 5 salats, c'est comme cette personne qui habite près d'un fleuve ou d'une rivière et qu'il s'y baigne 5 fois par jour. Est-ce que en fin de journée il y a encore une trace de saleté, d'impureté? Là, wallah, cette personne, abadan. Pareil. Donc, si la personne rigole ses salats, elle le fait correctement, mais grand espoir que les péchés cumulés, ils vont partir. Maintenant, les péchés kaba'ir, comme on avait vu ça pour le khutbah de Jum'a, les péchés graves, les péchés majeurs ne partent pas avec les ablutions, ne partent pas entre les prières. Ça nécessite une autre catégorie de tawbah. Et cette catégorie de tawbah qu'on avait vu ce Jum'a nécessite une présence du cœur, la sincérité, la dévotion, les remords et l'intention ferme de ne plus recommencer. Donc il faut que le cœur soit convaincu. Donc pour que le tawbah pour les péchés graves soit accepté par Allah, il faut vraiment que la personne soit sincère. Et pour atteindre la sincérité de le tawbah, il y a différentes étapes, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a des moments propices, il y a des moments où ça passe pas, on n'est pas concentré. Donc, pour revenir à tout ce qu'on disait, à ce moment-là, l'être humain voit alimat nafsu ma qaddamat. Il voit qu'est-ce qu'il a emmené, qu'est-ce qu'il a dans son livret de compte. Et encore une fois, on le dit que lorsque le péché a filtré tout ça, que quand il l'a accompli, il n'a pas demandé tawbah et qu'il n'a pas su profiter des moments importants pour demander un repentir sincère, etc., etc. Si par malheur il retrouve des péchés dans son livret de compte, c'est que ces péchés-là sont passés à travers tous les filtres de la rahmat d'Allah, ou que plutôt la personne, on va dire dans l'autre sens, la personne n'a pas su profiter de la clémence d'Allah pour obtenir son pardon. Et lorsqu'on se présente devant Allah avec un péché, c'est que vraiment on n'a pas fait d'effort pour que ce péché s'en aille. Et c'est que la présence d'un péché, maintenant on comprend pourquoi un péché, c'est grave le jour des comptes. Un péché dans ce dunya, ça peut aller. C'est-à-dire qu'on peut demander pardon. Comme l'homme qui retourne vers Allah avec la monture, ou celui qui part dans le pèlerinage de Mantaouba. Il avait plein de péchés. Les métaphores sont extraordinaires. Autant de péchés qu'il y a de grains de sable dans les mers, dans le désert. Mais du moment qu'il est encore dans ce dunya, et il demande pardon, c'est accepté. Mais arriver devant le tribunal d'Allah avec un péché, c'est ça la situation catastrophique, mes chers frères. Ça, c'est le pire des cas de figure. Et c'est pour ce jour-là qu'on se prépare. C'est pour ce jour-là qu'on fait tafsir Ibn Kathir, ou quel que soit le tafsir, le vendredi soir, pour lire les versets du Coran, comprendre le sens, méditer et mettre en pratique. Et pourquoi mettre en pratique? Pour mieux adorer Allah conformément à ce qu'il nous a ordonné dans son livre sacré, le Coran. Et pourquoi mieux adorer Allah? Pour être proche de lui, obtenir son contentement et s'éloigner de sa colère, s'éloigner de l'enfer, s'éloigner des châtiments, se rapprocher de sa bonté, sa générosité, sa clémence, son acceptation et donc du paradis. Afin que lorsque le moment fatidique arrive et que donc le ciel va se rompre, les étoiles vont se disperser, les eaux de la mer vont se confondre, les tombeaux vont ressortir bouleversés, et que là toute âme sera ce qu'elle a accompli, à ce moment-là, on se retrouve devant Allah avec des hasanats, beaucoup de bonnes actions et quasiment aucun péché, et surtout avec l'agrément, le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ce moment-là qu'on se prépare. C'est pour ce moment-là qu'on jeûne le Ramadan. C'est pour ce moment-là qu'on prie 5 fois par jour. C'est pour ce moment-là qu'on fait du'a, qu'on fait dhikrullah, qu'on dit subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est pour ce moment-là qu'on s'éloigne du zina, de l'alcool, de l'adultère, de l'intérêt, du haram, de la musique, de tous les péchés qui nous entourent, de tous les fitnas. On fait ce mujahada, ce sacrifice, pour ce moment. Quand on se retrouve devant Allah, quand chaque personne va se rendre compte de ce qu'elle a accompli, et qu'on fait, Inch'Allah, partie des gens qui, lorsqu'ils vont voir ce qu'ils ont accompli, ils vont être contents et rassurés. Lorsque la personne va voir, le croyant va voir ce qu'elle a comme hasana, la personne va être rassurée. Et non pas comme celui qui avait tamanna, envie, il avait l'intention, il dit un jour je vais faire ça, un jour il faut que je commence à venir à la masjid. Il y a des gens, parfois, on essaie de parler un peu avec eux, on dit, fait comprendre que notre identité de mu'min, on peut pas s'échapper de ça, on peut pas dire que j'ai telle chose, j'ai telle profession là. Et que la personne dit, non, Inch'Allah, j'ai l'intention un jour. Un jour, il faut que je me mette à pratiquer la religion. Ça viendra. On laissera le temps faire, mais un jour, je viendrai. Mais que la personne dit un jour, et Allah musta'an, et que Malik al-Maut vient, ben la personne, le jour des comptes, va se rendre compte que, wa akharat, qu'est-ce qu'elle a remis à faire plus tard. Et lorsque on se présente devant Allah et qu'on se rend compte demain, akhartu, ce que j'ai délaissé, j'aurais dû faire, je n'ai pas fait, là on peut dire que c'est trop tard. Là il n'y a plus de remords, là il n'y a plus de rattrapage, là il n'y a plus d'autre solution. Tout se joue donc dans ce dunya. Ces moments que nous vivons, ces minutes, ces secondes, mes chers frères et sœurs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux, de plus important. Le temps n'a pas de prix. Quand il dit le temps c'est de l'argent, mais il dit le temps c'est de l'argent parce que le temps vous permet de gagner plus d'argent, c'est ce qu'ils veulent dire à travers le dicton. Mais nous on dit le temps c'est l'au-delà. Le temps c'est le prix de l'akhirah, de l'éternité. Le temps là on le consacre dans les bonnes œuvres, alhamdoulillah, ça va nous être profitable. Mais le temps on le consacre dans le haram, on le passe dans le haram ou dans le ghafla, dans l'insouciance, dans les égarements, qu'Allah nous pardonne tous nos erreurs, ben ça ce sera contre nous le jour des comptes et ce seront là des motifs de regret. Même les ahl al-jannah, vous vous rappelez du hadith, pour ça me dit que la seule chose qui va attrister un peu les gens du paradis, c'est lorsqu'ils vont voir d'autres personnes qui auront des degrés plus forts, plus hauts. Il n'y aura plus de jalousie, hein? Il n'y a plus de jalousie, mais la personne va se rappeler des moments de rafla, d'insouciance. J'aurais dû profiter de mon dunya, j'aurais dû plus profiter des moments, des ayyam qu'Allah m'avait accordé de ce monde pour faire le dhikr Allah, pour faire l'adoration. Très souvent il y a des gens qui disent il faut aller doucement, il ne faut pas faire trop, sinon coco il bloque, détends-toi, va sort un peu avec tes amis, change un peu les idées, reste pas tout le temps à la mosquée. Il y en a qui pensent comme ça, mais Allah musta'an, le joie des comptes c'est le contraire. On va regretter chaque seconde qu'on a passée dans l'insouciance. Je connais des jeunes qui, hein, lorsqu'ils font des tournois de PSP, de DS, je sais pas quoi, ça commence le dimanche matin, 8h, ça va jusqu'au soir. C'est des trucs de malade. Et on dit que c'est de la détente et tout, mais Allah Akbar, quand le Prophète sallam dit que parmi ces gens qui seront, hein, selon le train d'Allah, Shabun Nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi dans l'obéissance. Encore à notre époque, on était plus jeunes, hein, d'accord, on a joué à tout ça, mais c'est jusqu'à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, après on passe à autre chose. Après, on passe à autre chose. Mais de nos jours, on a même des jeunes mariés, 22, 23 ans, ils continuent, ils sont encore obsédés par, parce que, d'année en année, il tient de nouveaux appareils, il y a le dernier truc que, je sais pas, des cubes ou je sais pas, des quoi qui sont. Ben, à chaque fois qu'il sort, la personne achète et il reste enfant dans sa tête. Mais ça, c'est pas le plus grave qu'il reste enfant dans sa tête. Le plus grave, c'est le temps passé, le temps perdu dedans. Ça, c'est, et que ce moment-là, et regardez comment, subhanallah, shaitan, il peut nous avoir par les péchés, mais s'il peut pas nous avoir par les péchés, il fait en sorte que le temps soit perdu. Et qu'on ne marque pas des points. Excusez-moi, l'exemple est bête, mais c'est comme si que vous êtes en train de jouer une finale de Coupe du Monde, de Ligue des Champions, je ne sais pas quoi, et que vous ne pouvez pas marquer de but, mais vous n'encaissez pas non plus. Si vous encaissez un but, là c'est grave, parce que là il faudra rattraper le score. Vous n'encaissez pas, mais l'adversaire, comment il y a une expression en football ici qui dit ça? Bref, j'ai plus en tête, alhamdoulilah, c'est des choses qu'on aimerait oublier. Et l'adversaire joue la montre, voilà. Pas oublier encore, frère, malheureusement. L'adversaire joue la montre. C'est-à-dire qu'il garde le ballon, il fait des passes à 10, à 11, et il envoie loin, mais en touche et tout. Ou alors il fait semblant d'être blessé, etc., pour être évacué sur la civière. Il essaie de gagner du temps. Comment l'a-t-il gagné en face? Oui, il reste 10 minutes, je dois marquer. Bref, d'accord? Il perd, il sait que le temps-là est précieux, mais il est en train de le perdre. C'est pas qu'il dit que ben, j'encaisse pas de but, donc tout va bien. Où est le problème? Non, t'as besoin d'avancer dans la vie, dans ton match, dans ton objectif de championnat, etc., etc. Ben, subhanallah, hein, excusez-moi, l'exemple est dunya, mais shaitan, il agit pareil. S'il peut pas t'avoir de les péchés, il fait en sorte que bon, lui, en tout cas, on le bloque. Pas de masjid, pas de dhikrullah, pas de dhikrullah. C'est grave, ça, non? Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais le Prophète l'avait fait une fois avec les sahaba. Hein, il n'y a aucune prétention, rien du tout. Qui parmi nous a lu au moins 100 fois Salatu ala Nabi aujourd'hui, en levant le doigt? Sans ostentation. Ça, c'est mimbab d'encouragement, ça. Qui parmi nous a lu, et si personne ne lève le doigt, c'est par humilité, alhamdoulilah, mais si personne n'a lu au moins 100 fois Salatu ala Nabi, ce qu'on appelle Durud Sharif, il y a des questions à se poser, mes chers frères. Parce qu'aujourd'hui, c'est Jum'a. Qui parmi nous, alhamdoulilah, qui parmi nous a dit au moins 100 fois astaghfirullah aujourd'hui? Alhamdulillah, Allah accepte. Qui parmi nous a fait shuruq? Qui parmi nous, après Fajr, est resté soit dans la masjid, ou soit chez, en rentrant, même s'il a acheté le pain, il est rentré à sa maison, etc., il y a un peu Coran, et qu'il a pu faire shuruq de raka'at le matin? Ça, c'est important. Il ne faut pas louper ça, mes chers frères et sœurs. Ça, c'est trop, trop, trop important. Hein, c'est pas un test. Hein. On rend des comptes auprès d'Allah. Je ne suis pas le machin, on vient se confesser, qui a fait cela. Mais le prophète, une fois, avait posé cette question au sahaba. Et il y avait sahaba qui, tout à lui, dit que man, j'ai plus le début du hadith en tête, il dit, qui parmi vous a rendu visite à un malade ce matin? Qui a levé le doigt? Cheikh Abu Bakr al-Siddiq. Qui d'autre? Bakr lève le doigt. Donc, ça, les ulama disent que ça ne veut pas dire qu'il l'a fait par ostentation, fierté, à moins le plus fort. Non. Le prophète m'a demandé. Ça, c'est mimbab et tarbiya. Le prophète fait ça pour éduquer les sahaba et pour montrer ta'aoun ala al-birri wa taqwa. S'entraider mutuellement dans les bonnes œuvres. S'encourager mutuellement dans les bonnes œuvres. Ensuite, le prophète m'a dit, qui parmi vous, si je ne me trompe pas, a donné à manger un pauvre? A donné la sadaqa? A suivi un mayette, une prière mortuaire, quelqu'un qui était décédé, qui parmi vous a fait telle chose, qui parmi vous a jeûné aujourd'hui, et à chaque fois qu'il levait le doigt, Abu Bakr al-Siddiq, on va dire c'était le meilleur élève, oui, le meilleur élève, le meilleur des hommes de ce dunya aussi. Le prophète donc l'a fait avec les sahabes. Donc, on doit se poser des questions. Tout comme on a fait un petit peu le professeur avec les élèves, excusez-moi, mais avant de dormir, je dois me poser ces questions. Avant de dormir, non, aujourd'hui c'est passé, mais demain, je dois me poser la question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait quelque chose de bien? Qu'est-ce que j'ai fait en plus? Je ne parle pas de 500 là, 500 y a un riz. Si tu ne le fais pas, tu as des problèmes là-haut. Donc, ça c'est l'obligation, ça c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Mais avant de dormir le soir, je dois faire un bilan de ma journée. Comme un commerçant, c'est un commerçant à la fin de chaque journée, il prend la caisse, il donne quelqu'un à les gérer, il compte pas, il voit pas qu'est-ce qu'il a, il a acheté, qu'est-ce qu'il a perdu, qu'est-ce qui a été volé comme marchandise, qu'est-ce qui n'a pas marché, il fait pas une gestion. Hein, je suis pas commerçant, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Si quelqu'un il fait pas ça, ben à la fin du mois ou à la fin après un an ou deux ans, voilà, il ferme parce que l'argent sort, il sait pas, il est en train d'importer des conteneurs de babioles qui servent à rien, cumulés, en train de gâter, dépérir, jeter, bref. Parce qu'il a compris la valeur de ce qu'il fait, il a besoin de faire un bilan. Chaque musulman doit faire un bilan de sa journée. Et nous, alhamdoulilah, notre relation avec Allah, elle est directe. C'est pas comme dans d'autres religions où on a besoin d'aller voir quelqu'un pour se confesser. Là, il n'y a pas besoin de se confesser. On se confesse directement avec Allah. Ça, c'est la clé qu'Allah a accordée à chaque croyant. Chaque croyant a une clé qui lui permet de se, on va dire, j'aime pas les termes modernes, c'est pas bien, de se connecter avec Allah Azza wa Jal. Une clé qui lui donne accès à Allah Azza wa Jal. De quelle façon? Raka'atayn et dua. Faites deux unités de prière en état d'ablution et vous demandez dua, vous parlez à votre Rabb. Oui, on parle à Allah. Ça, il faut prendre l'habitude de le faire. On fait dua à voix audible et dans la langue qu'on connaît. Ne vous cassez pas la tête avec des doigts en arabe. Si vous en connaissez et que vous connaissez la traduction, alhamdoulilah, vous le direz avec conviction parce que vous savez qu'est-ce que vous dites. Si vous ne savez pas, ne vous prenez pas la tête. Faites doigts en français, en créole, en mauricien, en noir. Pour faire mauricien aussi, il a accepté. Quelle que soit la langue, en chimmaoré, en malagasy, quelle que soit la langue, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle à Allah. Par exemple, là, on est le mois de Shaban. Vous savez que les actions ont une valeur spéciale. Les actions sont présentées devant Allah. Le lundi, le jeudi, certes, mais dans le mois de Shaban, plus encore. Donc, on fait le niyad ce soir avant de dormir. Ça, on avait fait ça à Montreuil mardi. On avait dit, qui fait l'intention ce soir de se réveiller? Qui fait l'intention ferme de se réveiller, de faire au moins deux raka'at de Qiyam al-Layl ce soir, de Tahajjud? Qui fait le niyad, Inch'Allah? Moi, je fais l'intention, Inch'Allah. Même si vous ne vous êtes pas réveillé, c'est pas grave. Mais yani, le niyat est fait. Sincèrement, hein, vous avez vraiment l'intention. Vous réglez votre réveil pour 5h15. Vous pouvez faire tranquillement votre tahara, vos ou de la rakat. Si vous n'êtes pas réveillé, vous êtes réveillé juste 6h pour la salat. Allah vous accorde, on a vu tout à l'heure, vous accorde la recommande qiyam al-layl. Nous, on fait l'intention de le faire. Et à ce moment-là, on lève les mains, on demande à Allah tout ce qu'on a besoin. Je vais répéter ce que j'ai dit ailleurs dans d'autres programmes, mais ça c'est des réalités. Il n'y a pas une personne de cette assemblée qui n'a pas une angoisse et un rêve. On a tous des choses qui nous font peur. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème familial avec madame, problème avec mon garçon qui a 15 ans, 16 ans, il commence à faire des bêtises, et je n'ai plus de main mise sur lui. Ça peut être un problème avec, je ne sais pas moi, mon propriétaire, mon locataire, avec mon patron, avec mon travail, ma santé. doit faire un bilan sanguin bientôt, ou alors on doit faire un scanner, le docteur m'a dit qu'il faut faire une IRM, il a dit qu'il y a des petits soucis, bref, chaque personne a des angoisses, ça c'est la vie de l'homme, de l'être humain. Et chaque personne a un rêve. Un célibataire, son rêve, c'est de fonder un foyer, d'avoir un jour une épouse vertueuse, d'avoir une famille, d'avoir une situation. Celui qui fait des études, c'est d'obtenir son diplôme, d'avoir bref, le travail, etc., etc. Chaque personne a des angoisses et chaque personne a des rêves, des souhaits. À qui on va demander ça? Vous allez écrire une lettre au ministre du Travail, ils n'ont rien à vous donner. Au ministère des Finances, du Budget, ils vont vous donner leur dette à payer. Ils vont augmenter vos impôts. Ils n'ont rien. Aucun être humain ne peut nous accorder quoi que ce soit sans l'ordre d'Allah. Tout passe par Allah Azzawajal d'abord. Donc on lève les mains, on demande à Allah. On parle avec Allah. Et Allah, il aime ça. Allahu Akbar. Que la créature se lève le soir de la nuit et lève ses mains. Dans cette hadith, il est même dit, il y a même un doigt qui est... J'ai plus le doigt. J'avais pris en photo sur mon portable pour pouvoir le lire quand on se réveille le matin. Je dis que c'est un bon truc, ça. Et donc, quelqu'un qui se réveille, même s'il ne fait pas de rak'at de prière, deux unités de prière, que la personne au moins s'assoie sur son lit et qu'il lise ce doigt. Il lit, il demande à Allah des choses. Si vous arrivez de vous lever dans la nuit, ben, asseyez-vous sur votre lit. Si vous avez trop froid, on est en hiver ici, il fait 22 degrés le soir, donc c'est glacial. Donc si on n'a pas le courage d'aller faire tahara avec l'eau tiède qu'on a déjà, c'est trop dur, d'accord? Dans ce cas, on s'assoit, on lève les mains, on dit « Oh Allah, je suis ton serviteur, tu es mon créateur, tu m'entends. » Dans la nuit, il n'y a personne qui m'entend, il n'y a personne qui me voit. Il n'y a personne qui sait que je suis en train de m'asseoir, en train de lever les mains. Il n'y a que toi, oh Allah. Tu es mon créateur, mon Rab, mon Seigneur, tu m'as donné la vie. Tu me donnes la mort un jour, je retourne auprès de toi. Je dis, oh Allah, tout est dans tes mains. Et puis on cite les qualités, le sifat d'Allah. J'ai tel problème, oh Allah. Qui peut m'aider à part toi? Oh Allah, tu es généreux, tu es karim, tu es clément, tu es miséricordieux. Tu es Rahman, Rahim, Wadoud, Ghaffar, Fattar. Subhanallah, on cite autant de qualités de sifat d'Allah qu'on connaît. Et oh Allah, tu es tellement généreux. Oh Allah, quand Ayoub alayhi salam était malade, tu lui accordes la santé après 18 années de difficultés. Quand Moussa a.s. était dans difficulté face à Pharaon, tu as ouvert la mer pour lui. Quand Ibrahim a.s. est tombé dans le feu, tu as ordonné à ce feu de devenir un jardin, un endroit paisible pour lui. Oh Allah, j'ai tel problème. Oh Allah, j'ai besoin de toi. Oh Allah, je t'implore. Oh Allah, s'il vous plaît. Ça. C'est-à-dire que même s'il y a des termes d'être humain qui sortent, mais que ça sort du cœur. Oh Allah, je t'en supplie, aidez-moi. Même si on tutoie, on ne vous voit pas, c'est pas grave. Mais qu'on demande à Allah, ça c'est important. Lier le cœur à Allah. Si le cœur n'est pas lié à Allah, on n'avance pas dans notre dîn, on n'avance pas spirituellement. Si je n'ai pas conscience qu'au milieu de la nuit, Allah m'entend, ben quand je suis dans la salah, même sous la lumière et tout, ça ne marchera pas. Tandis que dans la nuit, on se réveille, on demande doigt, on sait qu'Allah nous entend. Ben quand on est dans la salah, on a la concentration avec tout le monde, on sait qu'Allah nous entend, nous écoute et nous exauce. Donc mes chers frères, bon, on va s'arrêter là pour le tafsir, mais j'aimerais qu'on prenne conscience du qiyama, de la fin des temps, de la destruction de ce dunya. Et à travers la destruction de ce dunya, même si ce sont des choses que les croyants ne verront pas, mais ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle profondément, c'est ce verset « Alimat nafsumma qaddamat wa akharat ». Ça c'est la fatalité, ça c'est le point de non-retour. À ce moment, quand ces signes auront lieu, quand le monde sera détruit et que l'autre monde se met en place, le monde de l'au-delà, à ce moment, quand les gens ils voient ça, ils comprennent ce qui se passe, et là les gens se rendent compte de ce qu'ils ont pu faire, mais de ce qu'ils ont également manqué, de ce qu'ils ont raté, de ce qu'ils n'ont pas pu faire comme bonne action, et les taubas qu'ils n'ont pas pu demander de ce dunya. Donc, on doit prendre conscience du temps qui passe et faire l'intention de faire le maximum de bonnes actions. Bien sûr, le Ramadan arrive. Et attention, on ne laisse pas Shaitan nous piéger. Que là, je continue, je cumule les péchés, je continue à faire ce que je fais. Là, il reste 3 samedis soirs. Je sors, je vais aller avec mes amis, je vais faire la fête au maximum. Et Ramadan, khalas, on arrête net. Là, on demande pardon. Non, 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 non. Ne laissons pas Shaitan faire ça. Bien au contraire, le Rajab, Sha'ban, 2 mois qui précèdent le Ramadan, ce sont 2 mois importants. Donc c'est dès maintenant qu'on commence à se familiariser avec les prières de la nuit, avec les lectures du Coran, essayer de se rapprocher d'Allah, afin de, mashallah, du mois de Ramadan, dès le premier jour, on est vraiment au top, on commence vraiment, on a déjà pris de l'avance par rapport aux bonnes intentions, aux bonnes actions et l'éloignement des péchés. Donc, qu'on prenne conscience de ce moment de non-retour où on va voir ce qu'on a pu faire, mais également ce qu'on n'a pas pu faire. Et parmi les bonnes choses que je peux, les bonnes résolutions que je peux prendre dès maintenant, et ça, ça doit être le amal, l'action, le résultat du majlis, c'est que dès ce soir, je fais l'intention de me réveiller pour la prière de la nuit et demander à Allah tout ce que j'ai à demander. Et dans la mesure du possible, je fais l'intention tous les soirs, tous les jours, Inch'Allah, de me réveiller, ne serait-ce en plus, là on est en hiver, Allahu Akbar. L'hiver, c'est le printemps du musulman. Je passe un hadith ou c'est un athar qui dit que Ashita Rabi'ul Muslim. L'hiver, c'est le printemps du musulman. C'est-à-dire que c'est la meilleure saison pour faire les bonnes actions. C'est la saison où le soleil se lève tard, donc la journée est courte. Le soleil se lève tard, ce qui veut dire qu'on peut faire Qiyamul Layl jusqu'à tard. En ce moment, c'est jusqu'à 5h30, me semble, ou 35 à peu près. 32, d'accord? Ça, c'est, mashallah, les gens qui font Qiyamul Layl tous les soirs. Et les journées sont courtes, ça veut dire également que le jeûne n'est pas difficile, le saum. Hein, on commence tard, vous mangez jusqu'à 5h30, et rupture du jeûne, c'est 17h46-47. Donc la journée est courte également. C'est vraiment les moments propices pour faire le tahajjud. Faire tahajjud quand le subh al-sadiq est à 4h50, c'est un peu plus difficile, mais là c'est vraiment l'occasion. Donc ce soir on fait l'intention, et on fait le niyah jusqu'au mois de Ramadan, tous les soirs je fais qiyamul layl. Afin que lorsque le Ramadan commence, j'ai déjà l'habitude, mon corps est habitué, et vous savez le hadith de base, quand quelqu'un fait un pas vers Allah, on en fait deux pas vers lui. Je montre ma bonne intention, je fais preuve de sincérité dans ce que je fais, de dévotion, d'envie d'avancer vers Allah, et vous voyez comment Allah va nous accepter, va ouvrir les portes. Et si aujourd'hui j'ai fait, je peux avoir presque la conviction qu'Allah va m'accepter pour le lendemain et pour les jours d'ensuite. Mais tout dépend de ma première intention, de ma fermeté dans l'envie d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et dès maintenant également, on commence à se familiariser un petit peu avec la lecture du Coran, et j'essaie de faire un bilan, ça c'est dès maintenant on le fait, de faire un bilan de mes erreurs du quotidien, de mes péchés du quotidien, afin que lorsque le Ramadan commence, il ne faut pas que inconsciemment je continue à faire des péchés. Ce serait grave et lourd en conséquence pour la qualité de mon saum, pour la qualité de mon jeûne. Si mes péchés du quotidien, c'est faire la bise aux collègues, c'est donner la main aux femmes, c'est de regarder ce qui est haram, d'écouter ce qui n'est pas bien, etc., etc., j'essaie de faire on va dire un listing de ces péchés et essayer de les arrêter un par un, afin que lorsque Ramadan commence, alhamdulillah, ben on a fait un pas vers Allah dans les bonnes œuvres, mais également par rapport à l'éloignement au haram, et demander à Allah tawfiq. Demandez à Allah pour faire Qiyamul Layl demain, on lève le roi Allah, accepte-moi pour le tahajjud demain. Et pour arrêter le péché, oh Allah, j'aimerais contrôler mon regard, accorde-moi la force, la possibilité de le faire, et ensuite on fait des efforts, et Inch'Allah, on verra les résultats. Moi, tawfiq illah billah. Juste un petit message, hein. Enfin, c'est pas un message, mais vous suivez un peu l'actualité ces derniers temps. Vous voyez le nombre de sœurs musulmanes qui se font agresser en France en ce moment. Cette semaine même, il y a eu 2 ou 3 cas. Allah musta'an, c'est vraiment dramatique. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Dernier en date, hier matin, ou ce matin, hein, c'est toujours à peu près dans les mêmes quartiers, une femme musulmane, avec son châle, donc les cheveux couverts, agressée par, et elle était enceinte, elle attend un bébé. Elle était agressée par des personnes, on ne citera pas l'appartenance de ces gens, et elle a imploré la pitié de ces gens en disant que je suis enceinte, et ils l'ont frappée de son ventre. Cruauté, barbarie. Uniquement parce qu'elle a iman. C'est pas qu'il ne voulait pas voler rien, il n'y a pas une mention de vol ou d'argent, de raquette ou autre chose. C'est uniquement parce qu'elle a iman. Et ça nous rappelle quoi? L'histoire d'Ashab al-Ukhdoud. Qutila Ashab al-Ukhdoud an-nar idha til waqud. Et pourquoi? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. On faisait du tort à ces gens uniquement parce qu'ils avaient iman en Allah. Donc ce que cette sœur a vécu et ce que ces sœurs sont en train de vivre en France en ce moment avec cette poussée, cette montée d'islamophobie, et malheureusement islamophobie qui n'est pas condamnée. Et c'est là qu'on voit toute l'injustice. C'est là qu'on voit, mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se rendre compte que dans ce dunya il n'y a pas de justice? Et que autant on admire les hommes, la société qui a été faite par les hommes, et qu'on croit aux valeurs que cette société veut bien nous faire croire, mais si on considère que cette société elle est juste, et que ses valeurs sont justes, analysez son mode de jugement. Des femmes se font agresser jour après jour, et on sait bien qu'elles se font agresser parce qu'elles sont musulmanes. Il n'y a pas eu de condamnation publique, il n'y a pas eu de on va dire la une dans les journaux, voilà chaï. Et on sait pertinemment que le même crime qui aurait été commis pour d'autres personnes, on aurait eu, ça aurait eu une autre ampleur totalement sur le plan national. Nous voyons l'injustice le volm, le déséquilibre qu'il y a de les choses. Déjà, on le voit à travers les frères et sœurs syriens qui meurent depuis bientôt un an, plus qu'un an. Deux ans, qu'Allah me pardonne. À travers nos frères et sœurs qui sont massacrés, le génocide qu'il y a en Birmanie. Et à ce moment-là, il y avait des mesures qui étaient prises contre la Birmanie qui sont en train d'être levées, paradoxalement. Paradoxalement, il y a un journaliste qui reçoit le prix de je ne sais pas comment on appelle ça dans la presse internationale, de liberté, de je ne sais pas quoi. Complètement paradoxal, alors qu'il y a des génocides. Là, nous voyons que la vie d'un croyant n'a pas le même prix pour la société moderne que la vie d'une personne de la société occidentale. Nous voyons le déséquilibre, l'injustice qu'il y a. Et nous voyons, sur le plan personnel, dans notre pays, qu'une femme musulmane qui se fait agresser de la sorte, personne ne le condamne. Personne ne le condamne comme étant un acte, comme étant un crime par rapport aux convictions de la personne. Ça, c'est un crime contre l'humanité, ça. C'est par rapport à la conviction, à la religion de la personne qu'elle a été agressée. Nous voyons le déséquilibre qu'il y a, mais le bouchra, la bonne nouvelle, c'est pour ces personnes qui subissent ces difficultés pour Allah, la récompense qu'ils auront le jour de Qiyamah, c'est ajib. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont presque en train de vivre la même situation que les sahaba à Mecca. Oui ou non? Les sahaba à Mecca qui se faisaient insulter, humilier et parfois même agresser, c'est exactement ce qui se passe. Les insultes à caractère raciste, ça, c'est devenu leur quotidien. Mais même maintenant, on passe à des atteintes physiques et qui ne sont pas punies, qui ne sont pas mises en avant dans Amstan. Donc, ce que nos sœurs musulmanes sont en train de vivre dans ce quartier d'Argenteuil et d'autres régions de France, hein, certes, ça nous fait mal, ça déchire le cœur, mais que ces personnes soient réconfortées, elles auront des récompenses exceptionnelles, énormes auprès d'Allah Azza wa Jal, parce qu'elles ont subi des difficultés par rapport à leur amour pour le dîn d'Allah. Si ces mêmes personnes, elles marchaient comme d'autres personnes, cheveux au vent, habillées à l'occidental, avec jeans, t-shirts, etc., etc., elles n'auraient jamais été agressées. C'est parce qu'elles avaient les cheveux couverts, elles affichaient leur identité, leur conviction, elles vivaient leur identité, leur conviction de musulmane, qu'elles ont été agressées. C'est des choses qui nous font mal. Chaque croyant se doit de réagir. De quelle façon ? Par les écrits, par les voies qui nous sont possibles dans un pays où on parle de droits de l'homme, de démocratie, chaque personne doit se sentir responsable de ce qui se passe à travers ses élus, à travers les écrits, à travers la presse. Bref, montrer qu'on est solidaire, qu'on ne peut pas accepter ça. C'est vrai qu'ici, alhamdoulilah, à la Réunion, il n'y a pas ce problème, mais que ce soit une réunionnaise, une dionysienne, une saint-pierroise, ou une parisienne, ou une américaine, bref, ça reste une sœur en islam, ça reste un frère en islam, et nous sommes tous unis par la ilaha illallah. Donc, nos cœurs doivent saigner quand on entend ce genre de nouvelles. Et devant demander à Allah d'envoyer son aide et de soulager les difficultés de ces gens, que la justice soit rétablie. Mais en même temps, ça fait partie des signes de la fin des temps. L'oppression qu'il y aura sur les gens qui ont la ilaha illallah de leur cœur. Mais ça ne doit pas devenir une fatalité. C'est pas parce qu'on dit c'est la fin des temps, ben on va laisser les choses comme ça en attendant le Mahdi, là, abadan. Le prophète ne nous a jamais demandé d'avoir des réactions défaitistes. Là, le musulman doit toujours agir, essayer de rétablir la justice, rééquilibrer les choses, toujours en respectant les limites, bien sûr, ça, la question ne se pose même pas, mais on doit se sentir atteint par ce genre de crime et nos cœurs doivent saigner. Mais le côté, on va dire, positif pour ces gens-là, c'est la récompense qu'ils ont auprès d'Allah. Et d'une manière générale, chaque personne en France métropolitaine ou ailleurs qui vit sa foi avec des difficultés, hein, qu'ils prennent conscience qu'Allah leur a choisi, qu'Allah les a choisis pour vivre les difficultés un peu comme les sahaba, et certainement leurs degrés seront bien supérieurs aux nôtres parce que nous ne pouvons pas ressentir ce qu'ils sont en train de vivre. Qu'Allah leur vienne en aide et protège ces personnes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.